et d'archives sonores exceptionnelles. Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, c'est un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1, un petit peu comme pour votre libre antenne. Au carillon d'Europe 1, il est minuit et on retrouve Guillaume Lariche pour les informations. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Gabriel Attal à Nice ce lundi pour l'expérience d'internat éducatif. Le Premier ministre va visiter le lycée du Parc Impérial. L'établissement pilote doit accueillir des jeunes avant qu'ils ne tombent dans la délinquance. En proposant aux parents d'éloigner leurs enfants de leur quartier, le chef du gouvernement souhaite redonner aux jeunes en difficulté la possibilité d'apprendre, d'avoir un cadre et de garder toute chance de réussite. La fin des vacances de printemps pour la zone C de Créteil, Paris, Toulouse ou encore Versailles. Et ce lundi, les syndicats d'enseignants de Seine-Saint-Denis ou encore de Haute-Garonne appellent à la grève. Ils réclament la création de 8000 postes d'enseignants et de vie scolaire. Parmi les autres revendications, maximum 20 élèves par classe et également des travaux dans les vieux établissements. L'an prochain, pour bénéficier des aides familiales et du minimum vieillesse, il faudra passer au moins 9 mois par an en France, et non plus 6, comme c'est le cas actuellement. Le décret est paru ce dimanche. Le dimanche 9 juin prochain, vous le savez, vous serez appelé à voter pour les élections européennes. Il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire par Internet jusqu'au 1er mai et à la mairie de votre lieu de résidence jusqu'au 3 mai. Pensez bien à vous munir de votre pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. La fête foraine à Blois n'a pas repris ce dimanche pour son dernier jour de présence au parc des expositions. Une jeune femme de 27 ans est morte de ses blessures après avoir été éjectée d'un manège à sensation dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête est en cours, le propriétaire de l'attraction a été placé en garde à vue, son manège mis sous scellé. À Paris, la marche antiraciste partie de Barbès en début d'après-midi a rejoint en début de soirée la place de la République. 3000 personnes réunies d'après la police. Une cinquantaine d'organisations représentées à l'image du NPA, le nouveau parti anticapitaliste ou encore de la France insoumise. Des slogans pro-palestiniens ont également été entendus. Plusieurs dizaines de corps découverts enterrés dans la cour d'un hôpital de la bande de Gaza, zone qui a fait l'objet d'un raid israélien. L'armée de Tsahal dit vérifier ces affirmations. En clôture de la 30e journée de Ligue 1, Paris a battu ce soir au Parc des Princes, Lyon par 4 buts à 1. Paris domine le championnat de foot français avec 11 points d'avance sur Monaco qui s'est imposé aujourd'hui contre Brest 2-0. Dans les autres matchs, victoire de Metz, Montpellier et Lille, 2 partout entre Toulouse et Marseille. Cyclisme avec la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège, date de 1892. Course remportée ce dimanche par le Slovène de 25 ans, Pogacar. Enfin, sur le podium des 24 heures du Mans Moto, Suzuki s'est classé sur la plus haute marche devant BMW et Yamaha. Le circuit de la Sarthe qui accueillera les 24 heures du Mans Auto, ce sera le week-end du 15 juin. Europe 1, bientôt minuit 3, égalité, fraternité et libre antenne jusqu'à 1h du matin avec Valérie Darmon.
Carrément, vous êtes comme ça, vous. Bah, écoutez, moi j'adore. Hein. On aurait pu dire égalité, fraternité, choucroute. Vous avez connu ce film?
Ça, c'est parce que vous avez faim.
Non, c'était parce que c'était un film de Jean-Yann, il y a très longtemps. Mais bon, c'était.
J'ai
ça
pas
date.
La ref.
Ça date. Et ben voilà, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit.
Je
vous dis au week-end prochain.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Merci de nous rejoindre dans la libre antenne d'Europe 1. Merci d'être si nombreux ce soir à réagir à vos témoignages et à nos témoignages, évidemment. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21, vous le savez, nous laisser un SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, nous écrire à libreantenne@europe1.fr. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir à 0h04 sur Europe 1. Que puis-je faire pour vous? De quoi voulez-vous nous parler, Maxime?
En fait, j'aurais besoin de quelques conseils. Et je voulais parler de la solitude, en fait.
Oui. Donc, je vous écoute. Enfin, beaucoup de personnes sont concernées, vous le savez, sur la libre antenne. On recueille beaucoup, beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Déjà, vous avez quel âge, Maxime?
Là, c'est 29 ans, là.
29 ans, vous êtes jeune.
Oui, Parce que malheureusement, je n'ai pas trop d'amis et malheureusement, je suis dans la solitude. Je ne sais pas trop où je rentre dans la guerre, dans la vie. Vous aurez, si à la fin de mon témoignage, s'il y avait des auditeurs, auditrices qui pourraient être en contact avec moi, j'aurais aimé passer leur numéro de téléphone.
Oui, comme ça, je peux. Alors, dites-nous où vous habitez.
Moi, je suis en Rhône-Alpes, mais j'aurais aimé changer de région, voire peut-être de pays, parce que j'aurais, c'est par rapport à mon, j'arrive pas à trouver ce que je voulais dans la vie, même si j'ai des rêves que j'aurais aimé réaliser, et mon but c'était de devenir auto-entrepreneur, parce que je sais que travailler pour une entreprise, pour moi, c'est très très compliqué en fait.
D'accord, bah, ça c'est facile, mais il faut savoir dans quel domaine. Dans quel domaine vous voulez ouvrir une auto-entreprise ?
Moi, il y a trois choses qui me plaisent dans la vie. Et surtout que quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est des gens qui sont intéressés par mon profil, par rapport à ce que je vais leur parler, par rapport aux trois domaines que j'aime bien, c'était tout ce qui était les voyages, tout ce qui était les animaux, c'est-à-dire les chiens et chats, et tout ce qui était le sport, tout ce qui était le coach sportif.
D'accord. Mais je crois que je vous ai déjà eu à l'antenne, Maxime.
Oui, mais je rappelle que vous avez essayé de envoyer un message aux autres auditeurs, mais il n'y a eu personne qui m'avait... j'ai pas eu de réponse.
Ah, c'est ça.
S'il y a des gens qui... Parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé être dans une autre région et...
Et personne ne vous a contacté par le biais de la libre antenne, c'est ça ? Parce que vous vouliez bouger de Rhône-Alpes. Je crois que vous aviez des problèmes avec peut-être vos parents, non, il me semble, dans mon souvenir.
Oui, et comme j'aurais aimé couper les ponts avec ma famille, certaines personnes, voilà. J'aurais aimé changer de région. Mais après, je me dis que, en même temps, j'aurais aimé vivre à l'étranger parce que je me disais que mon avenir, j'aurais aucun avenir dans mon propre pays en France. Et je me dis que si je vais à l'étranger, d'une, c'est pour rencontrer d'autres personnes. Et en même temps, je pourrais réaliser mes projets. Et en même temps, je pourrais avoir une estime de soi et je sais qu'à l'étranger, je serai obligé de faire plus d'efforts que dans mon pays où je suis. Parce qu'après, c'est parfois la mentalité qui se passe en France, tout ce qui se passe. Je sais que si j'ai à l'étranger, je serai peut-être plus heureux que si je reste ici.
C'est peut-être du fantasme, hein, parce que partir à l'étranger, on emmène ses problèmes avec soi. Hein, faut peut-être résoudre d'abord avant de partir.
Mais en fait, quand je dis à l'étranger, en fait, c'était surtout de changer d'environnement, parce que je sais que si je suis dans un autre environnement, je sais que je pourrais...
Donner le meilleur de vous-même, vous donner une chance.
Voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais relancer un appel à l'antenne pour Maxime, qui a 29 ans, qui veut quitter la région Rhône-Alpes, donc n'importe où ailleurs sur le territoire français, pour un travail auprès des animaux. C'est ça.
Après, ça serait bien si c'était vers Alsace, ça serait bien.
En Alsace, alors, voilà. En Alsace, si quelqu'un nous entend dans la région de l'Alsace, ou de la Lorraine, qui n'est pas loin, ou des Ardennes, qui n'est pas loin non plus, on va élargir un peu le périmètre, Maxime. Quelqu'un qui travaille en lien avec les animaux, qui aurait envie de recruter quelqu'un, pour s'occuper des animaux avec lui, ou avec elle, ou... Dans le voyage, peut-être, je ne sais pas, il faudrait avoir une petite formation. Vous en avez une, Maxime ?
Non, mais il n'y a pas longtemps, j'ai créé ma propre chaîne YouTube où j'essaie de parler de ces trois domaines parce que j'ai toujours aimé depuis tout petit. Et dans le passé, j'ai eu la chance de voyager avec ma famille quand j'étais tout petit. Et le goût de voyager, pour moi, c'est pour deux raisons. C'est que d'une, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour réaliser mes projets. Et en même temps, aller vers les autres. Et quand on fait les choses soi-même, quand on est en voyage, on est obligé de s'adapter aux autres. Et je sais que si je vis à l'étranger, je serai obligé de m'adapter aux gens.
Et je sais est-ce que vous cherchez de votre côté déjà un travail, Maxime ? Juste ailleurs, peut-être en France, puisque vous avez une zone très large de recherche d'emploi dans les domaines que vous avez identifiés.
En fait, où je suis en ce moment, dans ma région, je n'ai pas trop trouvé, j'arrive pas trop à trouver. Et moi, c'est surtout pour quitter ma région et quitter ma famille.
Oui, mais vous pouvez chercher un emploi ailleurs. Justement, vous n'êtes pas limité. Utilisez ce champ des possibles au mieux pour vous. Élargissez votre champ de recherche d'emploi.
Mais après, le problème, c'est que c'est surtout par rapport au logement qui me... Donc, ce que je sais que si j'avais un logement, ce serait plus facile pour moi à avoir un emploi par la suite. Et surtout que j'aurais aimé changer de région ou de pays pour réaliser mes projets ailleurs de ma région.
Oui, j'entends. C'est ce que vous nous aviez déjà exprimé sur l'antenne d'Europe 1. Mais peut-être que vous pouvez trouver un petit job dans un premier temps avec un logement associé. Peut-être, je ne sais pas, vous pouvez vous occuper de personnes âgées, par exemple. Hein. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine. Le temps de mettre un peu d'argent de côté et de bien élaborer votre projet professionnel.
Parce qu'en fait, moi, mon but, c'était surtout, quand je vous ai demandé par rapport au conseil, c'était surtout pour devenir auto-entrepreneur, être indépendant à mon compte, parce que travailler pour l'entreprise, pour moi, ce n'est plus possible et je veux être à mon compte.
L'auto-entreprise, il me semble que c'est facile, en fait. Vous allez sur Internet, je crois qu'en un ou deux clics, vous arrivez à créer votre auto-entreprise. Hein. Après, il y a un plafond qui est assez élevé, d'ailleurs, de déclaration de ressources, en fait, un plafond à atteindre, ou pas d'ailleurs, et vous déclarez tous les trimestres ce que vous gagnez à l'URSSAF, et ensuite vous mettez ça sur votre déclaration fiscale. Hein. C'est très très facile l'auto-entreprise hein, à créer.
Parce qu'en fait, pour moi, comme dans le passé, j'ai travaillé dans des entreprises, et avoir une autorité d'un patron pour moi, ce n'était plus possible, et je sais que pour moi, le travail, ce n'est pas un problème. Pour moi, le problème, c'était surtout les relations avec les gens. Et j'avais un peu du mal à m'adapter aux autres.
Non, mais vous avez identifié que de toute façon, ce que vous voulez, c'est être auto-entrepreneur, ne pas dépendre de quelqu'un.
Voilà.
Donc, tout simplement, maintenant, vous avez déjà identifié ça. Donc, ça, c'est important. Maintenant, comme nous le disent les auditeurs ce soir au 739-21, quand on va à l'étranger, il faut parler la langue, il faut avoir un travail, il faut avoir une formation. Moi, ce que je vous suggère, Maxime, comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs la dernière fois, essayez d'élargir votre champ de recherche d'emploi sur l'ensemble de la France, parce que comme là, vous n'êtes pas, c'est pas déterminé, vous voulez aller du côté de Strasbourg, mais en même temps, si vous trouvez, je sais pas moi, à Quimper, vous irez peut-être à Quimper. Cherchez déjà quelque chose dans vos cordes, avec peut-être un logement associé, ou alors vous trouverez un petit logement pas très cher, parce qu'en province, c'est moins cher que dans les grosses villes. Voilà, mettez-vous en mouvement. C'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois, d'ailleurs. Il faut se mettre en action.
Après, je sais que vous avez essayé d'envoyer un message aux autres auditeurs, s'il y avait des gens qui pouvaient essayer de m'aider. Malheureusement, je n'ai pas eu de...
Ben oui, il n'y a pas eu de retour, parce qu'en fait, on ne peut pas... contrôler effectivement les gens qui nous écoutent. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui peuvent aider, eh bien évidemment, comme la communauté Europe 1 et surtout celle de la Libre Antenne est très très bienveillante, ben ils se manifestent, comme on l'entend quasi tous les soirs sur l'antenne du lundi au dimanche, ou alors par SMS. Là d'ailleurs, j'en profite pour donner un numéro de téléphone, enfin qu'on donnera hors antenne d'ailleurs, à Michael qui vient de nous appeler. Pour l'Institut pour la justice, pour l'aider hein, dans sa lutte contre le dysfonctionnement de la justice et de la police. Donc là, vous voyez, les auditeurs se sont mobilisés. Mais je ne peux que relancer l'appel sur l'antenne d'Europe 1, Maxime, mais je ne peux pas vous promettre des résultats. Donc on a entendu que vous cherchiez un travail avec un petit logement, plutôt dans la région Alsace-Lorraine-Ardennes, mais quel que soit l'endroit en France, et que vous avez 29 ans. Et que vous voulez que ce soit dans le domaine des animaux ou du voyage. C'est bien ça ?
Après, la deuxième raison, c'est qu'au même temps, c'était pour rencontrer d'autres personnes, pour sortir de la solitude et surtout pour avoir recréer du lien. Et surtout, je dis que quand je vais être à l'étranger, c'était surtout pour rencontrer des personnes.
J'entends, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont curieux des autres et qui aiment partir à l'étranger. Mais je crois qu'il faut définir votre projet. Ça, c'est du fantasme. Sport, animaux, pays étrangers, nous dit Jérémy au 739-21. Bon, ben voilà, ça, ce sont les hobbies de la majorité d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien, bien déterminer votre projet professionnel et vous donner les moyens, au moins, de faire un petit pas pour aller dans ce sens. Sinon, ça n'est que du rêve et que du fantasme.
Oui, je pense que vous dites.
Voilà, donc là, il faut vraiment que vous vous posiez. Peut-être que vous alliez vous faire aider par quelqu'un pour voir clair, peut-être un coach dans un premier temps, juste pour bien, bien déterminer vos objectifs et voir comment vous pouvez les mettre en place dans la réalité. pas dans le rêve, pas dans le fantasme, dans la réalité, en fonction de votre potentiel. Donc peut-être que ce que je peux vous indiquer, la dernière fois je vous avais parlé, je crois, d'essayer peut-être d'être, comment on dit, pet-sitter, là, gardien d'animaux, etc. Il y a beaucoup de demandes dans les grosses villes. Bon, vous pouvez gagner votre vie comme ça en auto-entrepreneur. Peut-être que là, ce serait déjà de trouver un coach pour bien déterminer votre projet professionnel. D'accord ?
D'accord.
Voilà, j'ai passé l'annonce à l'antenne, Jérémy, c'est le monsieur qui vient de nous laisser un message au 739-21. Et je vous souhaite bon courage dans cette recherche de coach cette fois, Maxime. D'accord ?
D'accord, merci quand même.
Merci, à bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Toujours autant, Happy, Pharrell Williams, ce soir dans la Libre Antenne d'Europe 1.
La Libre Antenne d'Europe 1, 22h01, Valérie Darmon.
Bonsoir Marie-Delphine.
Oui, bonsoir. Donc, je me suis enfin décidée à... je vous écoute tous les soirs depuis que je suis arrivée dans la région, dans une autre région, parce que j'ai déménagé. Donc, je suis... Enfin, pour m'exprimer, je suis dans une situation où j'arrive plus à savoir qui je suis. Alors, on pourrait dire que je m'exprime, enfin ça paraît un peu bizarre. Donc j'ai une identité, je sais qui je suis. Par contre, j'ai toujours eu un problème avec mes parents qui m'ont caché, enfin et qui me cachent la vérité sur plein de choses, je ne sais pas quoi. Et en fait, alors je vais un petit peu mélanger tout, hein, parce que c'est très très confus.
Oui.
Pendant un temps, je voyais un psy qui m'avait connue à l'adolescence. Après, je suis partie sur Cannes, j'ai travaillé dans les gros hôtels, style le Carlton, etc.
Oui.
J'ai fui à l'époque parce que j'avais pu mettre de l'argent de côté. J'ai fui l'environnement familial.
Qui était toxique, votre en fait, environnement familial?
Voilà, j'allais dire. J'allais venir. Je suis dans un environnement familial toxique, d'un père violent. Je passerai le reste.
Violent physiquement? Violent physiquement ou moralement? Ou les deux d'ailleurs?
Les deux, voilà, les deux. Alors, je passerai ce qui s'est passé dans mon enfance. Dans mon enfance
et votre adolescence
avant, à l'adolescence, voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'étais quand même très fusionnelle avec ma mère, malgré que elle a toujours eu une pathologie. Cette pathologie, on me l'a toujours cachée. Et ce qui est très bizarre, c'est que je pense que j'ai toujours fait comme si je le voyais bien, mais je passais dessus, en fait. Comme si je ne voulais pas savoir ce qui se passait, en fait.
Comme si vous étiez dans le déni, vous voulez dire?
Je voulais pas vraiment savoir... je voulais pas savoir ce qu'avait ma mère, en fait. À l'adolescence, j'ai été voir une gynécologue qui avait, je vais abréger, qui avait accouché apparemment ma mère, enfin, qui était, et à un moment, elle me dit, vous savez que votre mère est très gravement malade. Alors, quand j'ai entendu ça, en fait, au lieu de lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement de ma mère, et en fait, la gynécologue, je lui ai dit, écoutez, je veux rien savoir de plus. Et elle m'a dit à l'époque, c'était une gynécologue, le père était médecin accoucheur, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle, etc. Et elle aussi, donc c'était dans un hôpital qui n'existe plus d'ailleurs dans la ville où j'habitais. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai même pas attendu, je suis allée la régler après, quelques jours après. J'ai pas voulu entendre ce qu'elle voulait me dire. Je suis partie, j'ai fui la vérité, en fait. Et donc, après, quelques années plus tard, donc j'ai voulu consulter un psy parce que il s'est passé quelque chose de très, très grave. Bon, je pense que j'ai pas trop envie d'en parler. Ça me déchargerait effectivement de le dire à l'antenne. Mais.
Dans votre famille, toujours?
Toujours. Alors, c'est toujours mon père, la personne toxique, violent, alcoolique, le reste. Alors, je vais dire les mots, les mots sur les mots.
Oui.
En fait, mon père, à plusieurs reprises, a failli tuer ma mère, a failli me tuer. Et je pense... qu'elle n'a jamais rien dit parce qu'en fait, elle craignait mon père, tout simplement, et elle le craindra toujours.
Elle est toujours avec lui?
Alors, non. Donc, en fait, mon père, je dis bien entre guillemets, mon père est remarié. J'avais 16 ans quand lui mettait plus du tout les pieds, enfin, quand il est vraiment parti avec cette femme et qu'il ne mettait plus du tout les pieds, à l'époque, donc, j'habitais encore avec ma mère. Et donc, en fait, à cette époque, en fait, comment dire ça, alors, normalement, mes parents se sont divorcés quand j'avais l'âge de 17 ans, un an après. Ce qui est très bizarre, c'est que maintenant, je m'aperçois... En fait, quand je suis revenue de Cannes, je suis allée chez ma mère. Il y a eu des biens immobiliers. Et c'est vrai que toutes ces affaires-là, moi, tout ce qui est biens immobiliers, tout ce qui est vente, etc., on me mettait toujours à l'écart. Donc, en fait... jamais je me suis préoccupée de ça. Moi, c'était ma mère, préserver ma mère, être comme elle. D'ailleurs, elle
la protéger.
La protéger. Voilà, je cherche mes mots. Je suis un petit peu émue. Et donc, en fait, elle cherchait à me protéger elle de son côté, mais à sa manière. D'ailleurs, j'ai jamais bien compris ma mère et je sais pas. Et je sais pas ce qui se passe en fait sur ma vie. Et quand je suis revenue donc de Cannes, donc il y a eu des papiers. Je suis tombée sur des papiers, sur des choses. Et là, ça a été le comment dirais-je, le ciel qui me tombait sur la tête en fait. Tous les jours, j'apprenais quelque chose de nouveau. Donc, je suis allée, j'ai fait des lettres au procureur de la République. J'ai fait des lettres à Madame Macron, oui. J'ai fait des lettres, j'étais voir plein d'avocats, je crois que j'ai fait tous les avocats de la ville où j'habitais. Aucun voulait s'en occuper. Donc, effectivement, mon père me disait, oui, bah, on t'écoute pas, évidemment, puisque de toute façon... t'es folle et tu sais très bien que il faut t'enfermer. Et dès que je disais je suis tellement folle que l'histoire de Delphine et Marie-Delphine, et alors là quand je commençais à dire ça, alors là c'était le sujet tabou, et là ça y est, elle est en pleine crise, il faut l'enfermer. Donc là j'ai été revoir mon psy que j'avais vu à l'adolescence, m'aider, il me disait qu'effectivement bon, il me répondait pas à tout, parce que c'est un psy, en fait. Moi, effectivement, je voulais qu'il me réponde à tout. Bon,
vous cherchiez des réponses, en fait.
Voilà, en fait, je cherchais des réponses. Mais jusqu'à... Comment dirais-je, tout ce qu'il m'a dit m'a aidée, parce que, en fait, je baignais dans une peur totale, et maintenant j'ai changé de région et je suis dans une situation de détresse, en détresse. Personne ne bouge, et quand je dis que là, pour certaines personnes, j'écoutais le monsieur d'avant,
oui.
Que la justice, on se croit dans un complot. C'est-à-dire que j'écris au procureur de la République, je n'ai jamais de réponse. Je vais au commissariat, on me refuse ma plainte.
Sur quel motif on refuse votre plainte au commissariat ?
Aucun. Aucun. Alors, je pense que le cher papa passe derrière en me faisant passer pour folle, ça j'en suis certaine.
Si vous avez changé de région, vous pouvez déposer plainte dans votre nouveau commissariat. Oui. Votre papa ne sait pas vous êtes.
Si. En fait, les deux régions
sont limitrophes.
En fait,
sont limitrophes.
Voilà,
oui.
Je dirais c'est Bonnet Blanc. Je m'exprime très mal ce soir, mais bon. Enfin, et en fait, mon père fait partie de comment dirais-je. Je sais pas citer les noms de certaines.
De la franc-maçonnerie?
Voilà. Donc, et je vais dire alors l'autre nom, puisque vous avez la franc-maçonnerie, Ratari.
Oui.
Donc, effectivement, il a des appuis.
Un peu partout.
Voilà. Donc, vous voyez, ça me. Et jusqu'à maintenant, ma mère me disait, quand j'étais plus jeune, tu sais, avec ton père, j'ai jamais pu gagner des procédures, etc. Bon, vous savez, quand j'étais plus jeune, bon, Mais bon, j'ai pas pris attention à ça avec le retard. Elle me disait ça. Donc jusqu'à maintenant, bon, moi ça, tout ça, ça me passait, voilà. Et quand je suis revenue, donc j'ai vu des papiers. Et en fait, pour arriver à ce que je veux dire, c'est que en fait, j'ai déposé plainte pour usurpation d'identité. On me fait des papiers depuis mon enfance. On veut pas me donner sous quel nom à l'école j'étais
inscrite,
sous quel prénom. Je suis pas inscrite. J'ai fait des courriers à tous les lycées, à
Mais si vous appelez, la mairie où vos parents ont fait l'extrait d'acte de naissance.
Alors l'extrait d'acte de naissance, je l'ai. Donc c'est pour vous dire que j'avais tellement peur et que je suis dans une. Alors évidemment, mon père me dit à tout le monde, oui, il m'a dit dans une paranoïa, elle devient folle, il faut l'enfermer. Et là, j'ai encore des menaces de sa part en me disant, mais tu sais, je vais te foutre bientôt sous tutelle et puis tu vas nous débarrasser. Hein. Alors, évidemment, il y a une question d'héritage parce que ça fait déjà quelques temps. Donc, on m'a mis à l'écart, j'étais à Cannes pour vendre un bien immobilier de ma mère. Et là, je suis retournée dans un appartement qui appartient à ma mère. Alors, entre guillemets, j'ai tellement envie que j'essaye d'aller vite parce qu'il y a d'autres personnes sûrement qui attendent. Mais quand vous m'avez dit que vos parents sont divorcés, alors je finis ça, oui. Effectivement, mes parents, normalement, sont divorcés puisque mon père est remarié.
Ben mais, oui. Donc, les biens ont été répartis.
Alors, oui, le bien, normalement, ça je l'ai vu à l'acte du notaire, le bien où je suis actuellement, celui-ci aurait été acheté que par ma mère, à l'époque. Mais, donc mon père est remarié, ma mère n'est pas remariée, mais par contre, ma mère ne touche pas de retraite. Elle était commerçante, elle était connue aussi dans la ville, très très connue. Elle avait un magasin, elle avait une belle maison, elle avait... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, elle n'a pas de retraite. Donc, en fait, je me suis informée quand je suis revenue, que j'ai vu tous ces papiers qui étaient. Et la retraite, là, enfin, m'ont dit, votre mère n'a pas donné les pièces pour fournir, enfin, n'a pas fourni les pièces qu'on lui a demandées. Donc en fait, je suis tombée sur son nom de sur le papier de retraite, le nom de mon père, c'est-à-dire mon nom. Et j'ai un ami qui me dit, je pense que ta mère, je pense que ton père est bigame. Et ça, je me dis, alors ça, c'est...
Ton père est quoi? J'ai pas saisi.
Bigame.
Ah,
bigame.
Oui.
C'est... Parce qu'il me dit, je suis sûre que ta mère n'a jamais signé les pièces. Et ce qu'il m'a dit...
Donc le divorce, le divorce n'aurait pas été prononcé.
Alors, je dirais que il y aurait faux usage de faux dans tout. C'est-à-dire que mon père est remarié, légitimement comme ça. Mais comme ma mère, effectivement, je pense qu'à l'époque, elle a fait un burn-out, et d'ailleurs moi aussi, parce que j'ai un blanc dans ma vie, Je sais ce qui s'est passé maintenant je comprends. Plus ça va, plus j'ai des flashs. Et cet ami me dit, je suis sûre que ta mère n'a pas signé les actes. Effectivement, je pense qu'elle n'était pas en capacité d'aller signer les actes en jugement. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça.
Oui.
Au palais de justice.
L'acte de divorce.
Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, elle n'est sûrement pas divorcée. Et mon père, avec sa... Je ne voudrais pas dire le mot parce que...
Oui, avec ses appuis, voilà. On va dire, avec ses appuis, aurait voilà, pu se remarier. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Il s'est me remarié avec excusez-moi du terme, mais une pute. Hein, voilà, donc ma chère dame qui fait partie de la franc-maçonnerie du Rotary, travaillait dans un bar à pute. Mais voilà, ça me soulage de le dire. Voilà. Et c'est pour vous dire que plus j'apprends, et alors je suis arrivée dans le logement de ma mère, donc je vais finir là-dessus, dans un des logements de ma mère, où on m'a poussée à repartir. Donc
Qui vous a poussé à repartir?
Mon père. Et ce qui m'a extrêmement choquée, c'est-à-dire que quand je suis revenue de Cannes, en 2018, j'ai habité ce logement. Parce que je ne savais pas où aller. Donc en fait, j'avais les clés, ma mère me les avait données, on était en bon terme. Donc je suis arrivée dans ce logement, les clés n'avaient pas été... Et si les clés ne marchaient pas, je suis quand même rentrée dans le logement, ça marchait. Je suis partie un peu les cheveux au vent, en fait, on va dire. Donc en fait, je suis revenue là pour ma mère, et puis parce que je voyais qu'il y avait des choses qui...
qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas transparentes.
Qui n'étaient vraiment mais, pas très claires du
mais
tout.
Mais Marie-Delphine, oui. Vous êtes toujours en contact avec votre papa en dépit de sa toxicité?
Alors, donc là, je voulais vous expliquer ça. C'est qu'en 2018, je reviens là. Et ma mère, je la sens de plus en plus distante. Et quand je lui pose des questions, elle ne veut pas me parler. Elle ne me répond plus, très, très, très peu. Et un jour, elle me dit « Tu devrais revenir à Angoulême, comme ça on serait toutes les deux. » Donc effectivement, elle me dit ça. Donc, pardon, j'ai dit la ville. Bon. Donc en fait, je lui dis effectivement, donc je vais la voir. Effectivement, je veux revoir ma mère. Je vais être auprès d'elle. Donc je me dis, bah effectivement, on sera toutes les deux. Donc j'accepte sa proposition. Et puis de toute façon, je suis revenue pour elle en fait. Et je lui dis, mais si je vis pas chez toi. Je vais faire comment parce que j'ai pas de CDI. J'ai perdu mon ami d'un cancer. Je mélange un peu tout. Quand je suis partie de chez ma mère et qu'il y a eu un burn-out, qu'il y a eu quelque chose. Enfin, je me suis retrouvée à la rue parce que j'ai perdu mes grands-parents qui eux m'aidaient. Et là, j'ai rencontré mon ami où j'ai travaillé chez lui. Et
il est décédé aussi.
C'est Portegia. Qui est décédée aussi.
Vous avez quel âge, Marie-Delphine, aujourd'hui? Je ne vous ai pas demandé.
J'ai 54 ans.
D'accord.
Et en fait, donc je suis revenue donc en 2018 dans cet appartement. Et c'est pour vous dire que ma mère me dit, je lui dis, mais si je ne vis pas chez toi, je vais aller vivre où? Parce que je n'ai pas les moyens de prendre un... J'ai plus Serge,
Vous n'avez pas de garant, voilà. Vous ne pouvez pas.
Donc elle me dit, tu sais très bien que je ne peux pas me porter garant pour toi. Mais je lui dis, pourquoi tu ne te porterais pas garant pour moi puisque tu as une retraite? Elle me dit, non, je n'ai pas de retraite. Enfin, je lui dis, attends, mais c'est quoi toutes ces histoires? Elle me dit, tu sais très bien que je n'ai jamais eu de retraite, j'ai 400 euros de retraite. Alors, je lui dis, mais l'employé qui m'a élevé, qui sait tout de ma vie, qui m'a vu naître, parce qu'elle était dans le magasin de ma grand-mère avant, j'ai été la voir, je me suis déplacée, je voyais bien qu'elle était gênée, mais elle me dit, en tout cas, ta mère a une retraite, parce que je le sais, je l'ai vue, elle a une immobilière, etc. Et ma mère me dit, non, j'ai pas de retraite. Alors, effectivement, ma mère était quelqu'un qui en a subi, qui a subi par mon père, qui a travaillé extrêmement, qui a géré bien ses affaires, mais gestion, c'est-à-dire que gestion, elle allait faire les achats au centenier, elle gérait, j'allais avec elle d'ailleurs, mais tout ce qui était gestion
de la comptabilité, c'était pas elle.
Voilà, elle avait un comptable, c'était mon père qui était derrière et mon oncle. Voilà, ma mère n'a jamais rempli une feuille d'impôt. Jusqu'au jour où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, quand je lui ai dit, mais...
Vous êtes fille unique, Marie-Delphine?
Je suis fille unique. Normalement, je suis fille unique. Sur l'acte de naissance, je suis fille unique. Et on me cache tout. Et on me met à l'écart. Et donc, c'est pour finir. Donc, quand je suis arrivée dans ce logement en 2018 qui appartient à ma mère, donc ma mère m'a dit, eh bien, écoute, je vais demander à ton père... et qui se porte garant pour un logement. Et là, j'avais le téléphone dans les mains, et c'est comme si c'était hier. Et là, j'ai failli jeter le téléphone, j'ai raccroché, j'ai été prendre un cachet, et je me suis dit, il va falloir que tu te poses, et tu te calmes, et demain, tu appelleras à ta mère, et tu lui demanderas... ce qui se passe. En fait, j'ai rappelé ma mère le lendemain. Je pouvais pas lui parler. Et je lui dis, mais en fait, t'étais toujours... depuis 40 ans, j'avais pas eu de nouvelles de mon père. Et je lui dis, en fait, t'étais toujours en contact avec lui. Et là, je vois ma mère qui me dit, non, enfin, bon, enfin, bon, bref, elle
noie le poisson. Oui, elle noie le poisson.
Voilà. Mmh. Voilà. Donc, en fait, je lui dis, bah, enfin, écoute, tu veux pas me répondre, mais en fait, oui, t'étais toujours en contact avec. Donc, aucune réponse. Elle me dit, tu sais très bien que je peux pas me porter garant, donc ton père va se porter garant. Et là, je lui dis, non, mon père, il n'existe pas. Et cette personne, cet être, cet être diabolique, comme tu le disais toi-même, je ne veux plus avoir affaire à lui. Et tu m'annonces que tu es toujours en contact avec lui. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me fais là? Je lui dis, mais tu veux quoi? Je lui dis, mais tu veux que je me suicide? Et là, ma mère me raccroche au nez. Donc là, c'est la panique complète. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce qui m'arrive. Donc, en fait, ma mère me rappelle quelques jours dans la semaine et elle me dit tu sais très bien que je... Oui, je lui dis, je la connais, la phrase. Tu ne peux pas te porter garant. Donc, en fait, c'est soit ça, pour qu'on se revoie, ou alors soit... Alors, je lui dis, écoute... je vais accepter sa proposition. Je vais venir. Et je lui dis, je viens pour toi. Et je veux qu'on soit en contact tous les jours, m'occuper de toi, comme on faisait avant, etc. Donc, je suis obligée
Quel âge elle avait votre maman? Quel âge elle avait votre maman à cet âge-là, Marie-Delphine, à cette époque-là? Quel âge avait votre maman?
Alors, il y a 50, peut-être, 84, 5, 6, 7, elle devait avoir 83 ans. Et j'accepte sa proposition. Je revois mon père. C'est pour moi, c'est un géniteur. J'ai pas l'impression que ça soit le vrai père. On ne se ressemble pas du tout physiquement. On est à l'opposé de moralement. Je dirais que c'est un pervers narcissique, un malade, un alcoolique. Après, je dirais pas ça à l'antenne, je continuerai pas pour le reste. Donc, en fait, j'accepte pour ma mère. Donc, je reviens dans la ville juste pour ma mère. Et donc, la première année, il me met dans un logement. Je lui dis, je n'habiterai pas dans un logement où il y avait, vous voyez, c'était des drogués, enfin, mon style HLM, le truc cassos et tout. Mm-hmm. J'ai arrivé de la croisette. Et il me dit, il a le culot de me dire, ton ex est décédé. Donc là, je dis rien. Je me dis en moi-même, qu'est-ce que t'as accepté encore de... qu'est-ce que c'est que cette situation? Donc, en fait, je vais voir ma mère. Et là, j'arrive et je vois des papiers chez elle. Des papiers, mais complètement de tout. Mais tout me tombe sur la tête, là. Et là, je commence à faire des démarches. Je vais voir tous les avocats. Je vais voir
C'était quoi les papiers, là, Marie-Delphine, cette fois-ci?
Parce qu'en fait, quand j'étais à Cannes, la notaire de ma mère avait dit « Faites une mesure de protection à votre mère, demandez une mesure de protection à votre mère, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, et moi, je ne veux plus être notaire de votre mère. » Donc, je lui dis « Bah oui, on fait comment ? Je dis, ça se passe comment ?» Donc, je demande à un avocat sur Cannes, qui m'a bien aidé, qui m'a... Donc, je demande, bon, je remplis les papiers, je conduis, et puis, évidemment, il fallait un médecin spécialisé. Et là, toujours, je ne reçois jamais rien de réponse. Donc, j'appelle, le palais de justice d'Angoulême, tous les jours, jamais de réponse. Bon, on vous a envoyé les courriers, on vous a envoyé la démarche à faire, etc. Enfin, moi, je n'y connaissais rien, etc. Donc, jamais rien. Et là, j'arrive sur Angoulême, et qu'est-ce que je vois ? Je vois l'adresse où j'habitais à Cannes avec le nom et le prénom de ma mère. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et en fait, ma mère, plus ça va, plus je vois qu'elle se faisait passer pour moi. Alors attention, j'accuse pas ma mère, je dis bien que quelqu'un l'a fait passer pour moi. Alors je pense...
Mais c'est quoi, ce serait quoi l'intérêt de la personne ? Pour qu'elle se fasse passer pour vous, l'intérêt de votre mère de se faire passer pour vous, à quoi elle peut prétendre qui pourrait être une source d'intérêt pour elle ?
Je ne comprends pas la situation, parce que quand on me dit ça, alors d'un côté, je me dis que ce serait pour les impôts, pour le fisc, parce que rien n'est déclaré. Et par exemple, là, vous voyez, j'avais pendant un temps 3 numéros fiscaux. Donc ça, j'avais jamais fait attention, vous voyez, c'est le truc qui m'a... Jusqu'au jour où j'habite à Cannes, et puis j'avais jamais habité justement dans l'appartement de ma mère, et puis ils me disent, et je vois l'adresse de ma mère, et une adresse fiscale, et l'adresse à Cannes aussi. Donc là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette situation ? Et tout comme ça.
Vous avez appelé le Trésor public pour vérifier, non ?
Ah, mais je me suis déplacée, j'ai fait des courriers.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ah, ben effectivement, on s'excuse, il y a eu une erreur. Mais vous savez, si par exemple, on dépose un papier dans un dossier, enfin une feuille d'impôt à l'entrée, mais qu'il y en a une autre qui a été envoyée, signée, on ne fait pas attention. Non mais je lui dis, attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a une autre carte d'identité. Et alors tout est comme ça. C'est-à-dire que ce qui est très bizarre, c'est que je reçois, quand j'habite dans l'appartement à Angoulême, un recommandé de la banque de ma mère, j'en reçois un autre recommandé de la banque de ma mère, qui me dit, vous avez déjà un compte à Delphine. Vous avez déjà un compte à Marie-Delphine. Donc là, je vais à la Banque de France, je leur demande ma carte d'identité, je leur dis, est-ce que je suis fichée à la Banque de France ? Non, ils me disent, vous n'êtes pas fichée, vous n'avez aucun problème. Et là, je leur dis rien, je leur montre ma carte d'identité, et je leur dis, je suis bien... Alors, ils ont dû se poser la question là encore, et je lui dis, ma carte d'identité, il n'y a pas un autre compte, un autre prénom ? Alors ils me disent, ben non, vous avez que votre compte à Marie-Delphine, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes inscrite, il n'y a pas d'autre
Marie-Delphine avec votre nom de
voilà,
famille.
Il n'y a pas d'autre prénom que Marie-Delphine. Donc ça me rassure. Bon, je comprends toujours pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc alors, je n'ose pas leur dire, je retourne à la Banque de France et je leur montre ces documents. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous comprenez à ça ? Que je reçois des recommandés de la banque de ma mère qui me disent, vous avez déjà un compte à Marie-Delphine et un compte à Delphine. Et comme vous voyez, j'ai qu'une carte d'identité, j'ai qu'une identité à Marie-Delphine.
Et qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Alors, ils me disent, allez à la banque de votre mère et faites un courrier... en demandant...
Et votre mère, Marie-Delphine, elle s'appelle Delphine ou pas ?
Non, elle a un autre prénom, justement. Elle est... ça n'a rien à voir. Elle ne s'appelle pas du tout Delphine ni Marie-Delphine. Son deuxième prénom est Marie, oui. Et donc, tout est comme ça. Et je n'ai aucune réponse partout où je me tourne de personne.
Donc, à chaque fois, on vous dit qu'il y a eu une erreur ? Le trésor public, il y a eu une erreur. La banque, il y a une erreur.
C'est passé pour folle. Alors, là, comme on me faisait tellement passer pour folle, j'ai gardé tous les documents. Donc là, je rentre, les premiers temps, je suis avec ma mère, je m'occupe d'elle, je lui fais ses courses comme c'était avant, je lui fais son petit ménage, je m'occupe d'elle, je vais lui acheter des affaires, la vie reprend comme ça devenait. Et un jour, je sens ma mère qui ne veut plus me répondre au téléphone. Donc je me déplace, j'étais assez loin, mon géniteur, on va dire, m'avait donc trouvé cet HLM, mais au lieu d'être dans le quartier bien placé, j'étais loin. Donc je sentais, il m'avait mis là pour pas que je surveille en fait ma mère le soir par exemple, et parce que à pied c'était trop loin et c'était on va dire craignos. Et là on me dit tu te mets des trucs dans la tête. Non, je ne me mets pas des trucs dans la tête, malheureusement. Et là, il y a une tierce personne qui est là depuis longtemps et que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas depuis toutes ces années que cette personne est là. Et qu'il agit, cette personne, avec mon père, avec mon oncle, et il amène une personne qui fait qui fait faire les courses à ma mère, et de quel droit cet individu
aide votre mère.
Voilà, de quel droit cet individu prend ma place.
C'est peut-être pas prendre votre place, peut-être que c'est pas prendre votre place, peut-être que tout simplement, visiblement, votre maman continue d'entretenir des relations avec votre papa, en dépit de tout ce qu'il a pu lui faire et de tout ce qu'il a pu vous faire. Peut-être que votre géniteur, comme vous dites, vient en aide à son ex-épouse, a priori, parce qu'elle vieillit, parce qu'ils ont gardé une forme, je ne sais pas, de peut-être qu'il y a une emprise, peut-être qu'il y a une forme d'intimité, de complicité, voilà. Choses comme ça. Peut-être que ce n'était pas pour qu'elle prenne votre place, tout simplement, c'était pour l'aider.
Oui, bien sûr. Il y a des choses vraiment très bizarres. Et c'est là, justement, quand je suis allée chez ce psy, donc il me laissait réfléchir, évidemment. Mais il avait toujours ce mot, parce que je lui dis, vous vous rendez compte ce que me dit ma mère? Il me dit, mais votre mère, elle vous aime. Mais par contre, elle est sous l'emprise. Et à un moment, il me dit, mais votre mère, elle a quelqu'un dans sa vie. Et là, le truc, là encore, qui me tombe sur la tête, et je lui dis, ben non, alors à l'époque, elle connaissait un monsieur, mais un ami comme ça, que je voyais, qui l'aidait, mais je me dis, c'est pas possible que ce soit ce monsieur, non, enfin, il a son âge, ben, non, impossible. Et la personne, qui est dans sa vie, qui a fait de la prison, qui n'est pas la première personne âgée
dont il abuserait éventuellement.
Voilà,
ça change la donne.
Et ma mère, et c'est pas la première personne âgée, parce que moi aussi, il me fait du chantage. Mais son chantage, maintenant, j'en ai plus rien à faire. Et à l'époque, donc ce psy me dit, votre mère a quelqu'un dans sa vie. Alors là, je passe tout n'importe qui, mais jamais cette personne ne serait venue à l'idée. Jusqu'au jour où il y a ça. Et la personne, ce gars met une personne, une aide à domicile en fait, qu'il connaît. C'est même pas une aide à domicile, parce que moi je fais des papiers pour je dis à ma mère, bah écoute, si tu veux pas que je m'occupe de toi à ce moment-là, je vais te faire avoir des aides. Non, et là
il place quelqu'un, en fait il place quelqu'un à lui.
Voilà, c'est une femme qu'il connaît, et là ils font changer les serrures et j'ai plus accès à voir ma mère.
Ah oui,
voilà. Et donc là je vais tous les jours, j'appelle toujours ma mère. Je vais tous les jours, donc il y a des magasins en face, ils me voient attendre devant la porte.
Mais vous arrivez, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous arrivez à avoir votre mère au téléphone ou pas ?
J'arrive à avoir ma mère au téléphone, mais
elle n'est pas libre de vous.
Elle est sous état de choc.
Voilà, elle n'est pas libre de vous parler puisqu'il doit être à côté.
Non. Elle n'est pas libre de me parler. Et là, quand je commence à comprendre, je me dis, ma mère n'est pas dans son état normal. Donc en fait, je lui dis, mais je suis en bas de chez toi, je suis à la porte devant, il y a des commerçants, ils te connaissent. Je ne partirai pas sans que tu m'aies ouvert. Alors elle me dit, je suis en chemise de nuit, quelqu'un très coquette. Je suis en chemise de nuit, je ne descendrai pas, je suis fatiguée, je ne peux pas marcher, je ne peux pas descendre. Et moi, là, c'est la descente aux enfers. Et donc, je lui dis, bah, écoute, à l'époque, il y avait un pharmacien qui la connaissait. Donc, je lui dis, écoutez, je vais voir ma mère, je vais passer par derrière, et ouvrez-moi la porte-fenêtre, presque. Des trucs pas possibles. J'appelle la police et je leur dis, écoutez, je suis devant chez ma mère. Ma mère, il y a des problèmes. Il y a quelqu'un, elle est sous l'emprise et elle est séquestrée. Donc là, je vois tous les avocats, je vois ceci, machin, on prend pour la folle du quartier, etc. Donc, un jour, ma mère, quand même, m'ouvre, au bout de longtemps. Et là, je lui dis, je ne partirai pas de chez toi. Donc, elle me dit... je vais appeler la police. Mais je lui dis, appelle la police, mais c'est moi qui vais l'appeler, la police. Donc, ma mère n'était pas... je vois bien, elle m'ouvre la porte, elle n'était pas dans son état normal. Donc, j'avais pris un petit enregistreur, en fait, un petit magnétophone, parce que je ne savais pas le faire avec le téléphone. Et on m'avait dit, prends ça et essaye de le faire. Donc, le peu que j'ai pu l'enregistrer, je suis allée au commissariat. Et là, j'ai dit, il faut que vous écoutiez ça. Et là, la commissaire me dit, la personne qui m'enregistre atteinte me dit, mais votre mère, elle boit. Ah, je dis non, ma mère ne boit pas. Elle n'a jamais bu de sa vie. Et mon père, oui, mais ma mère, non. Elle me dit, votre mère, elle n'est pas dans son état normal. Et je lui dis, voilà, elle n'est pas dans son état normal. Et depuis, ils n'ont rien fait. Et ma mère, ils l'ont shooté par cachet. Alors évidemment, vous allez dire, ils vont dire, t'as des preuves? Pas des preuves, il va me menacer. Mais ces menaces, j'en ai plus rien
donc
à faire.
Donc vous êtes toujours dans cette situation, Marie-Delphine ?
Voilà.
Est-ce que vous pouvez faire intervenir le médecin traitant de votre maman ?
Non, il ne veut pas me parler.
Il ne veut pas vous parler, le médecin traitant ?
Non. Et vous savez, alors, pour vous dire l'histoire, ce qui se passe actuellement, c'est que je suis dans un de ces logements, donc je suis revenue dans ce logement. Je n'ai pas de toilette, je vais dire caca, à l'antenne, caca dans des poches plastiques, dans un pot, je n'ai pas de chauffage, je n'ai pas de lavabo pour me laver, il y a eu un dégât des eaux qui a été intercepté par mon oncle, par mon père, pardon. Il m'a fait accuser d'avoir fait un dégât des eaux dans l'immeuble, parce que c'est une copropriété.
Mais quels sont leurs intérêts ? C'est les intérêts financiers ?
Je pense. Ils veulent l'héritage. Alors c'est pour ça que j'arrive à avoir peur de tout douter. Et là, je fais tous les médecins et je me dis, est-ce qu'ils seraient capables d'aller jusqu'à transformer les prises de sang, les médecins, les...
Non, absolument pas.
Et là, je vais voir des médecins, je leur dis, écoutez, parce que, en fait, je reçois des... je reçois quand même des... La caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie.
Ah, oui, d'accord.
J'habite toujours pour eux en Charente et je reçois des papiers de Charente et je suis plus en Charente. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça tient quand même.
Il faut quand même que vous alliez voir un avocat hors région.
Oui, hors région.
Oui, Oui, oui.
Oui.
Hein, parce que...
Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il pourrait aller jusqu'à...
Jusqu'à quoi ?
À vouloir du mal à la mort, quoi, enfin...
Non, je pense pas, mais je pense qu'il faut que vous preniez un avocat pour quand même remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'on voit que tout est confus, et un avocat va vous aider, Marie-Delphine.
Alors, vous voyez, par exemple, j'ai vu voir une association...
Je suis désolée...